Bonjour, est-ce que vous voulez bien vous présenter ?
Oui, je m'appelle Emmanuel Etis, je suis recteur de l'Académie de Rennes et vice-président du Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle. Et je suis également professeur d'université au Conservatoire national des arts et métiers.
S'il y a quelqu'un qui peut nous parler d'EAC, c'est bien vous. Mais qu'est-ce que c'est que ces trois lettres EAC ?
Mais écoutez, l'EAC, comme tous les acteurs de l'EAC le savent fort bien, c'est une double éducation, une éducation à l'art et une éducation par l'art. Ce qui signifie qu'on a à la fois des pratiques qui sont proposées à nos élèves, des pratiques artistiques ou des pratiques culturelles. Il faut vraiment penser aux deux. Des rencontres avec des artistes ou avec des structures culturelles également. Et puis, des connaissances qui doivent être et qui doivent accompagner ces rencontres et ces pratiques, puisqu'il est évident qu'éclairer une pratique, c'est savoir d'où elle vient, savoir comment elle se compose. On voit très bien ce que la musique nous apprend, en tout cas l'histoire de la musique, pour mieux encore pratiquer la musique, ou mieux rencontrer les musiciens, ou mieux s'inscrire soi-même dans un parcours de musicien.
Quels sont les publics de cette éducation artistique et culturelle, EAC ?
Oh ben, j'allais dire que tous les publics de l'EAC, nous sommes tous des publics de l'EAC. Je crois que c'est d'ailleurs ce qu'a fort bien compris le président de la République quand il décide de dire qu'il faut passer vers le 100% EAC. Alors ça sous-entend d'abord un 100% EAC, c'est-à-dire pour tous les enfants, mais j'allais dire pour nous tous, parce qu'au fond, c'est la génération de demain que nous sommes en train de construire, ou les générations de demain que nous sommes en train de construire ensemble. C'est-à-dire que tout le monde puisse disposer dans ce pays d'une éducation artistique et culturelle digne de ce nom, c'est-à-dire, effectivement, qu'il ait pu avoir l'occasion de rencontrer la pratique qui lui convient, individuellement, mais aussi collectivement, mais également rencontrer peut-être l'artiste, l'auteur, le musicien qui va changer sa vie, avoir cette occasion, ce qui n'est pas toujours une occasion donnée à tous aujourd'hui, et puis bien évidemment de savoir pourquoi et prendre sens et faire sens. Vous savez, l'éducation artistique et culturelle, c'est aussi une manière d'interpréter le monde contemporain dans lequel nous vivons. Et ce regard et cette entrée par l'art, et grâce à l'art, nous permet de voir les choses sans doute autrement, c'est-à-dire un univers qui est d'abord un univers de représentation.
Tout ça se retrouve dans un texte, les 10 commandements de l'EAC, les tables de la loi. Qu'est-ce que c'est que ce document fondateur ?
C'est une charte, en effet, qui s'appelle la charte de l'éducation artistique et culturelle. Elle a été présentée aux deux ministères, celui de l'éducation nationale et le ministère de la Culture, en 2016, en Avignon, à l'occasion, effectivement, de la promulgation de cette charte, par le Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle. Elle a été approuvée par les ministres de l'époque et réapprouvée par les ministres d'aujourd'hui, puisque cette charte bénéficie aujourd'hui, en plus, d'une nouvelle charte graphique qui montre, effectivement, qu'elle s'installe dans la durée. Et j'avoue que c'était un repère très important pour l'ensemble des acteurs de l'EAC, parce qu'elle met aussi d'accord, j'allais dire, en accord tous les points de vue. Elle est écrite avec des mots extrêmement simples, qui soient compréhensibles par tous. Et c'est bien là le sens d'une charte, pour que, en tout cas, les objectifs et les enjeux soient bien partagés.
Une charte est donc maintenant un institut. C'était nécessaire, un institut ? La charte ne suffisait-elle pas ?
Écoutez, c'est souvent une question qui est posée. Une charte, ça définit un cadre, ça définit, j'allais dire, un fonctionnement. Dans la charte en tant que telle, il y a deux objets, deux articles qui portent précisément sur la nécessité d'avoir une formation mutuelle, commune des acteurs pour construire une culture commune de l'éducation artistique et culturelle. J'allais dire tous les acteurs qui le pratiquent, que ce soit des artistes, que ce soit des enseignants. Il fallait avoir une formation qui soit vraiment la même, qui soit la même partout en France, qui soit référencée de la même façon. Et puis, enrichir aussi la recherche en éducation artistique et culturelle. Donc, installer, et c'est ce que nous pouvons faire grâce au Conservatoire national des arts et métiers, ces différents acteurs dans un lieu pour pouvoir imaginer ensemble comment on va pouvoir aborder la recherche qui, en France, est située par beaucoup de chercheurs qui font de l'éducation artistique et culturelle. Il n'existe pas vraiment de réseau, pas vraiment de lieu de rencontre. Et on trouve avec cet institut l'idée de pouvoir consolider, d'avoir une véritable vitrine qui va, un, mettre la lumière sur les autres, mais porter aussi les références, tant en termes de formation qu'en termes de recherche pour l'éducation artistique et culturelle.
Ce lieu capital est donc désormais à Guingamp, dans une ancienne prison. Comment est-ce possible que ce soit à Guingamp désormais que cet institut soit installé ?
J'allais dire que l'éducation artistique et culturelle, elle doit pouvoir s'installer n'importe où en France, dans le plus petit village de haute montagne, comme dans la plus grande ville qui soit la plus grande métropole. Après, pour travailler cet objet, pour convaincre en tout cas sur la manière dont tout est possible, c'est vrai que Guingamp s'est imposé parce que Guingamp, en tant que ville, située au cœur des Côtes d'Armor, j'allais dire même au cœur de la Bretagne. C'est une ville qui est historiquement très impliquée sur l'éducation artistique et culturelle. Guingamp a fait partie, notamment avec Cannes, qui est une autre ville importante et qui s'est beaucoup impliquée sur l'éducation artistique et culturelle. Guingamp a vraiment joué le jeu du 100% EAC, c'est-à-dire que c'est devenu une politique publique ici. Et on voit très bien comment cela fonctionne, parce que les équipements sont activés derrière cela, les équipements culturels, j'entends. Et la ville, la politique de cette ville s'est inscrite dans une logique du 100% éducation artistique et culturelle, comme beaucoup de villes le font aujourd'hui, mais ça a été une des premières à expérimenter cette logique. Donc ça, c'est un premier point. Les Côtes d'Armor, on le sait, sont historiquement très habitées, à la fois par l'éducation artistique et culturelle, mais aussi par l'éducation populaire, qui, dans l'après-guerre, s'est vraiment imposée comme un horizon pour l'ensemble des populations ici. Donc j'allais dire qu'on a un terreau très intéressant, comme celui de la Bretagne, qui, elle aussi, s'est impliquée pour devenir une région pilote en éducation artistique et culturelle depuis janvier 2019, pour montrer qu'on devait être sur un lieu qui propose cette écologie, où tout le monde, en tout cas, a cette volonté de porter le sujet. Voilà pourquoi Guingamp, et pourquoi Guingamp, parce que tout simplement, c'est un magnifique, j'allais dire une magnifique ville-campus, parce qu'elle ressemble à un petit campus universitaire, que c'est une ville de petite cité de caractère, donc on peut y étudier le patrimoine, elle a les équipements culturels requis pour travailler sur l'EAC. Elle est à 2h30 de Paris, ça veut dire qu'on peut faire un vrai séminaire avec un aller-retour dans la journée. Donc vraiment, elle a tous les critères. Et puis surtout, c'est une ville qui va pouvoir, par rapport à sa taille, devenir ce qu'on appelle une ville laboratoire, où on va pouvoir étudier réellement, à l'échelle de cette ville, la pratique de tous les élèves, de la maternelle à l'université.
Donc une charte, un institut, Guingamp est retenu, mais une prison, un institut national dans une prison. Pourquoi une prison ?
Ben, écoutez, l'idée, elle était très simple, c'est que nos ministères et nos ministres, éducation nationale, culture, enseignement supérieur, dès l'instant où le projet a pris jour, c'est-à-dire aux horizons de 2017, avec l'arrivée du président de la République, Emmanuel Macron, qui a voulu que l'éducation artistique et culturelle soit incarnée dans un lieu, c'est-à-dire un lieu symbolique assez fort, eh bien, nous nous sommes mis en quête de trouver ce lieu. Donc, on a parcouru un peu la France et en arrivant précisément dans les Côtes d'Armor, on s'est dit que non seulement c'était un territoire propice et ce lieu était en cours de réhabilitation. Il était très important sur le plan éthique de ne chasser personne d'un lieu pour s'installer comme un coucou quelque part, mais comme ce lieu était en cours de réhabilitation, que non seulement il est absolument magnifique sur le plan architectural et que au fond cette réhabilitation pouvait permettre beaucoup de choses, on s'est dit que c'était sans doute le lieu propice, donc les discussions se sont faites autour de l'identification de ce lieu, et tous nos ministères, les collectivités territoriales se sont alignés pour se dire effectivement ça doit être ici, parce que cette incarnation d'une transformation de prison en école dévolue à l'éducation artistique et culturelle, c'est juste absolument merveilleux.
Et donc maintenant, cette ancienne prison sera le cœur d'un campus universitaire.
Au cœur d'un campus, bien sûr, l'importance dans le projet même de la prison et de son architecture de base, c'est bien qu'elle se trouve en cœur de ville. Ce qui, là, quand on pense prison, on peut penser à des prisons qui peuvent se trouver ailleurs. Là, c'est vraiment une prison intégrée à la ville, pleinement intégrée. Elle est juste derrière l'hôtel de ville, elle est au cœur de la ville. Tout se pratique à pied dans Guingamp, hein, ce qui est très important pour une ville-campus. On a une ville-campus un petit peu à l'américaine dans ce sens, hein, où on fait tout à pied. J'avais beaucoup travaillé avec mon collègue Damien Malinas sur les films de campus, et on voit que là, on a vraiment le campus qui peut exister. On a les terrasses, on a tout ce qu'il y a, tout ce qui permet de faire les choses. Et puis cette prison, qui quand on y ressemble évidemment à un petit théâtre shakespearien, hein, ceux qui vont la découvrir dans le livre vont voir à quel point c'est cela. Et à quel point, finalement, c'est un lieu propice à l'étude, au travail, aux échanges. Et cet phénomène panoptique qu'on retrouve évidemment au sein de la prison permet tous de se voir. Et puis, c'est évidemment le sens de l'éducation artistique et culturelle aussi, d'avoir tous les regards possibles. Donc, ça incarne vraiment la belle symbolique qui soit.